et du Fils et du Saint-Esprit. Mes bien chers frères, en ce dimanche de la quinquagésime, nous sommes au seuil du carême, nous sommes au tout début de la montée vers Jérusalem, et c'est donc tout naturellement que l'Église nous donne d'entendre ce que le Seigneur a dit à ses apôtres avant de monter à Jérusalem. Il leur a annoncé sa passion. Et comme ils n'ont rien compris à ce langage pourtant clair, il va leur dire en faisant un miracle, en guérissant l'aveugle de Jéricho, eux qui sont incapables de voir les choses qu'ils sont en train de se réaliser. C'est donc mon plan, d'abord l'annonce de la passion, puis l'aveugle de Jéricho, qui est une réponse à cette incompréhension. Le Christ a amplement annoncé à ses apôtres qu'il allait être livré. Il l'a fait très explicitement trois fois, et à chaque fois, pas fortuitement, à des moments très précis, à des moments où il annonçait justement sa gloire et la participation de ses disciples à sa gloire. Donc si vous entendez aujourd'hui, vous aussi, cette annonce de la passion, c'est au moment où vous êtes invité à participer de la gloire de Dieu dans cette Eucharistie. Oui, trois fois il va leur dire, après la confession de Pierre, où il lui annonce qu'il va bâtir l'Église, qu'il va s'appuyer sur lui, il annonce sa passion. Ensuite, lors de la transfiguration, alors ils viennent de voir la gloire de Dieu et que Saint-Pierre aimerait bien rester dans cet état, il leur annonce sa passion. Et ici, après leur avoir indiqué qu'il participerait du jugement des 12 tribus d'Israël sur 12 trônes dans l'éternité, il leur annonce une fois de plus sa passion. Oui, on peut s'étonner qu'il soit difficile de comprendre ce qu'il est en train de leur dire, car soyons honnêtes, si nous aussi nous entendons cela, nous l'entendons subrepticement et immédiatement nous courons au tabor, nous courons à la résurrection. Eh bien, mes bien chers frères, pour y arriver à ce tabor, à cette gloire de Dieu manifestée, puis à la résurrection, il nous faut d'abord passer par la croix. Oui, il nous faut entendre cet appel à la passion, cet appel à la mort, cet appel à la souffrance, qui est le lot de notre vie. Pourquoi est-ce le lot de notre vie ? Parce que tout simplement, c'est l'Église qui le vit. L'Église qui n'est rien d'autre que le corps du Christ, qui n'est rien d'autre que Jésus-Christ, répandu et communiqué jusqu'à la fin du monde, selon la belle expression de Bossuet. Eh bien, ce Christ qui a vécu sur terre une fois pour toutes sa passion, sa mort et sa résurrection, s'étend maintenant dans le temps pour déployer cette passion, cette mort et cette résurrection. Il est difficile pour nous de comprendre cela, mes bien chers frères. C'est la différence entre l'éternité et le temps. Nous qui sommes dans le temps qui se déroule et Dieu qui est dans l'éternité, c'est-à-dire dans l'instantanéité de tout, pour lui, en lui, tout est réalisé, mais nous ne sommes pas complètement réalisés encore en Dieu. Voilà pourquoi nous allons poursuivre dans le temps cette réalisation de la croix du Christ. Le Christ est en agonie jusqu'à la fin du monde, et pourtant je sais qu'il est ressuscité. Il me faut tenir ces deux vérités si je veux comprendre le sens de ma vie, le sens de la vie de l'Église. Oui, ils ne comprirent pas les apôtres, qui ne rêvaient que de gloire, et on les comprend, qui ne rêvaient que d'enfin d'arriver du règne du Christ sur le monde. Mais s'ils n'ont pas compris, ils sont quand même allés avec lui. Oui, ils n'ont pas compris, mais faisons comme l'apôtre Thomas, le bienheureux saint Thomas, qui voyant qu'on part à la mort et ne comprenant pas pourquoi, dit aux autres, « Eh bien, montons avec lui et mourons avec lui. » Voilà ce qui nous est demandé au seuil de ce carême, « Montez avec le Christ à Jérusalem et mourons avec lui. » Oui, nous non plus, nous ne voulons pas mourir et nous avons bien raison. Et c'est pourquoi l'Église va nous faire entendre trois fois durant la dernière semaine, trois fois dans la forme extraordinaire du rite en tout cas, le récit de la Passion comme les trois annonces du Christ, afin de bien nous faire comprendre qu'il ne s'agit pas d'une vague distraction ou d'un souvenir que nous aurions de la Passion, mais d'une vie que nous allons nous-mêmes assumer, celle du Christ. Oui, mes bien chers frères, le Christ est en agonie jusqu'à la fin du monde, ce n'est pas une formule, c'est-à-dire que réellement, dans l'Église, dans son corps, le Christ continue de souffrir. Il souffre évidemment du péché des hommes, il souffre de ses ennemis qui sont nombreux, ils l'ont toujours été, les pharisiens de tout poil qui se scandalisent pour rien, les ennemis de l'Église qui veulent sa perte, qui veulent sa destruction. Mais vous le savez bien, il y a pire que ces ennemis-là, mes bien chers frères, et c'est nous. C'est nous, lorsque nous péchons, lorsque nous trahissons notre vocation à la sainteté, lorsque nous trahissons ainsi le Christ, nous crucifions de nouveau notre Seigneur et nous laissons l'Église se mettre à mort. Nous n'en avons que trop d'exemples devant les yeux, et si nos contradicteurs nous le rappellent souvent avec une parfaite mauvaise foi, cela n'en est pas moins vrai. C'est nous qui crucifions le Christ. N'ayez pas peur, mes bien chers frères, de soutenir ce Christ souffrant, mourant. Cette Église souffrante, mourante, elle n'a pas d'autre condition avant que d'arriver dans la gloire. Ne croyez pas à un règne temporel où tout serait beau, où tous les chrétiens seraient déjà saints sur terre et où l'Église régnerait en paix tranquillement. C'est impossible. C'est le contraire de la vie du Christ. Il nous faut vivre dans le corps qui est l'Église, cette mort et cette crucifixion pour arriver à la résurrection. Alors, mes bien chers frères, ce n'est pas une annonce triste, c'est une annonce grave, ce n'est pas la même chose. C'est grave car nous savons que c'est une épreuve, mais nous savons où nous allons et nous savons que nous allons jusqu'à la gloire de Dieu, que nous allons recevoir comme un art ici au pied de cet autel et dont nous vivrons éternellement, nous rappelle saint Paul, quand nous connaîtrons face à face, c'est-à-dire quand la vérité nous aura complètement brûlé, aura brûlé toute imperfection en nous et qu'enfin nous serons dans la béatitude. Voilà pour cette annonce du Christ. Et comme c'est difficile à comprendre, le Seigneur va susciter sur sa route un aveugle qui l'appelle. Il n'a pas suscité l'aveugle, mais il a suscité l'appel de l'aveugle. Eh bien, mettons-nous dans les pas de l'aveugle de Jéricho. Nous n'avons pas d'autre chose à faire que ce qu'il a fait. Il nous faut, comme lui, crier et suivre le Christ. Il faut d'abord crier. J'aime toujours quand dans l'Évangile, on nous rappelle qu'il faut crier, car, comme je crie tout le temps, et qu'on me le reproche d'ailleurs assez souvent, eh bien, je suis ravi de savoir qu'on peut crier. De savoir, et mettez-vous bien dans la tête, que le bon chrétien, c'est pas un gentil petit bourgeois qui n'aurait embêté personne et qui parlerait pas trop fort pour montrer combien il est humble. C'est faux ! Un chrétien, c'est quelqu'un qui doit crier l'Évangile, qui doit le dire à tout le monde. Et nous ne pouvons pas nous taire, comme l'aveugle de Jéricho. Nous sommes en face de pharisiens qui nous demandent de parler un petit peu moins fort, de ne pas prier, de ne pas invoquer Jésus là où ce n'est pas nécessaire, pas dans la société, pas dans l'éducation, pas... Eh bien si, nous voulons Dieu dans la famille, nous voulons Dieu dans l'Église, nous voulons Dieu, nous l'espérons, nous voulons Dieu dans la société, nous voulons Dieu partout, car nous sommes de Dieu et nous savons qu'il est notre salut. N'ayez aucun respect humain lorsqu'on vous commandera de parler de Jésus une autre fois. Dites-vous que c'est le bon moment pour en parler. Avec intelligence et finesse, bien entendu, nous ne pouvons pas nous taire. Il me souvient avec tristesse un jour d'avoir fait visiter à des enfants, des petits, de CM1 je crois, la chapelle des martyrs de la rue du Bac. Et je leur expliquais que ces martyrs étaient morts parce qu'ils ont professé la foi et qu'ils ont dit que Jésus était le Sauveur. Et un enfant, très gentiment, lève le doigt et me dit « Oui, monsieur l'abbé, mais nous, c'est pas possible. » Je dis « Pourquoi c'est pas possible de dire que Jésus est le Sauveur ?»« Pas parce qu'à l'école, c'est interdit, on ne peut pas parler de religion. » Quelle horreur que d'empêcher des enfants de manifester leur foi, que d'empêcher des enfants de Dieu de dire quel est leur salut. Alors, appelez le Seigneur de tout cœur. Il est notre salut et nous voulons lui répondre. Nous voulons prier aussi car si nous parlons, ce n'est pas uniquement pour le spectacle. Nous parlons parce que d'abord nous parlons au Seigneur intérieurement et c'est pourquoi il nous faut le professer. Le Seigneur, avec une extrême finesse et toujours une délicatesse infinie, alors qu'il sait bien à qui il a affaire, qu'il sait bien que c'est un aveugle et que sûrement ce qu'il voudrait, c'est voir, eh bien, il lui pose la question. « Que veux-tu que je fasse pour toi ? Est-ce que tu veux garder ton infirmité, ta vie minable, le fait que tu caches le Christ sans cesse ? Ou est-ce que tu veux le voir ?» Et il le laisse se manifester afin que nous aussi, comme lui, nous disions cette phrase « Seigneur que je vois, Seigneur que je vois, Seigneur que je vois ». Faites de cette prière peut-être votre oraison jaculatoire durant le carême, pourquoi pas, que vous puissiez voir là où il vous faut aller, voir ce qu'il faut réaliser, voir donc le Christ lui-même. Suivez-le. C'est l'enseignement de cet aveugle qui va à lui tout seul rendre la vue à tout le monde, car il aura vu le salut. Il lui dit « Vois, c'est un jeu de mots, ta foi t'a sauvé. Maintenant tu vois, mais vois que ta foi t'a sauvé. » Eh bien vous aussi, si vous avez foi et que vous professez cette foi, vous verrez que votre foi va vous sauver. Il se lève, il ressuscite. Il nous faut nous aussi ne pas nous laisser avachir par la vie et l'habitude. Il faut nous lever sans cesse, il faut faire effort, car la pente naturelle de l'homme, c'est la descente. C'est Saint-Exupéry qui l'écrit dans Terre des Hommes. Il nous faut sans cesse faire un effort pour nous relever, pour recommencer, pour retourner au Seigneur. C'est le sens du carême. Il nous faut aller vers le Seigneur et le toucher. Comment fait-on pour toucher le Seigneur ? Comment fait-on pour le voir en réalité ? Eh bien, vous avez les armes nécessaires qui vous ont été infusées dès votre baptême. C'est la foi, l'espérance et la charité, ces vertus théologales qui touchent Dieu directement. En l'espérant, vous entretenez votre personne dans la présence de Dieu. En le croyant, vous touchez vraiment le Seigneur présent réellement dans son Église et notamment dans les sacrements et dans l'Eucharistie. En réalisant la charité, vous réalisez Dieu. Dites-vous bien que nous avons ce pouvoir infini de rendre réel en nous ce que nous disons, c'est-à-dire rendre réel le Christ. Alors, peut-être pourriez-vous me dire, « Monsieur l'abbé, c'est bien gentil, mais nous ne sommes pas parfaits. » Oui, je le sais, moi non plus. Mais laissons saint Thomas d'Aquin nous donner la voie en la matière, une perfection en chemin, c'est-à-dire une perfection qui n'est pas encore complète, et déjà une perfection, même si elle n'est pas la perfection pure. Toute perfection, tout acte de charité que vous réaliserez sera un acte réel, car Dieu est cette charité. Vous ne le voyez pas encore, comme l'a dit saint Paul, vous le voyez confusément. Vous pouvez croire que c'est une bonne action, un bien divers, mais tout ce que vous ferez de bien, de vos aumônes, de vos jeûnes, de votre acte de charité envers les autres et envers vous-même, eh bien, ceci va réaliser vraiment le Christ en vous. À la fin de votre vie, il ne restera plus que cela. Il ne restera plus que l'amour, car l'amour, c'est Dieu lui-même. Cette charité divine en action est à notre portée, elle est à notre main. Dieu nous donne de coopérer au salut de mon âme, de notre âme, en réalisant le bien qui est à ma portée. Réjouissons-nous, mes bien chers frères, nous qui venons d'entendre la passion du Christ annoncée et qui y vient, réjouissons-nous que nous sachions comment passer à travers, comment passer de la mort à la vie, de l'esclavage du péché à la résurrection bienheureuse. La charité est à notre porte, la charité est à notre main. Ainsi soit-il.